un vite on ne peut plus agréable pour l'Artois qui s'apprête à se lancer à leur poursuite. Les Templiers tentent de l'arrêter. Frère Gilles, grand commandant du Temple, le flatte en lui disant qu'il a déjà accompli une entreprise admirable, des plus grandes jamais réalisées en terre d'outre-mer. Mais l'Artois, muscadin assoiffé de gloire, accuse les Templiers de trahison. Il ajoute même que si Templiers et Hospitaliers l'avaient voulu, cette terre aurait déjà été conquise depuis beau temps. Et lui avait donné une preuve de ce qu'on pouvait faire si on avait du sang dans les veines. C'en était trop pour l'honneur du Temple. Le Temple n'est à nul autre second. Tous se précipitent vers la ville, y entrent, poursuivent les ennemis jusqu'aux murailles du côté opposé, et là, les Templiers s'aperçoivent qu'ils ont répété l'erreur d'Ascalon. Les chrétiens, Templiers compris, se sont attardés à mettre à sac le palais du sultan. Les infidèles se regroupent, fondent sur cette nuée de vautours maintenant dispersés. Une fois de plus, les Templiers se sont-ils laissés aveugler par l'avidité? Mais d'autres rapportent qu'avant de suivre l'Artois dans la cité, frère Gilles lui avait dit, avec un stoïcisme lucide, « Seigneur, mes frères et moi n'avons peur, et vous suivrons. Mais sachez que nous doutons et fort que vous et moi puissions revenir. » En tout cas, l'Artois, grâce à Dieu, est oxy, et avec lui beaucoup d'autres braves chevaliers et 280 Templiers. Pique une défaite, une honte. Et pourtant, on ne l'enregistre pas comme tel. Pas même Joinville. Ça s'est passé, c'est la beauté de la guerre. Sous la plume du seigneur de Joinville, grand nombre de ces batailles, ou escarmouches comme on voudra, deviennent d'aimables balais, avec quelques têtes qui roulent et moultes implorations au bon seigneur, et quelques pleurs du roi pour un de ces féaux qui expire. Mais tout comme tourné en couleur, au milieu des caparaçons rouges, harnais dorés, éclairs de haume et d'épée sous le soleil jaune du désert, et face à la mer de turquoise, et qui sait si les Templiers ne vivaient pas ainsi leur boucherie quotidienne. Le regard de Joinville se déplace de haut en bas ou de bas en haut, selon que lui-même tombe de cheval ou qu'il y remonte. Et il cadre des scènes isolées, le plan de la bataille lui échappe. Tout se résout en un duel individuel, dont il n'est pas rare que l'issue soit fortuite. Joinville se lance au secours du seigneur de Wannon. Un Turc le touche de sa lance. Le cheval tombe sur ses genoux, Joinville vole par-dessus la tête de l'animal, se relève l'épée à la main, et messer Erard de Civray, « Que Dieu s'absoye !» lui fait signe de se réfugier dans une maison en ruine. Ils sont littéralement piétinés par une troupe de Turcs. Se relèvent indemnes, atteignent la maison, s'y barricadent. Les Turcs les assaillent par le haut avec leurs lances. Messer Ferris de Loupet est touché aux épaules. Et fut la plaie si large que l'y sang l'y venoit du corps aussi comme l'y bondonce d'un tonnel. Et Civray est frappé du tranchant de l'épée en plein visage, si que l'inné l'y choix sur le lèvre. Et ainsi de suite. Puis arrivent les secours. On sort de la maison, on se déplace sur une autre aire du champ de bataille, nouvelle scène, autres morts et sauvetages in extremis, prière à haute voix à Messer Saint-Jacques. Et pendant ce temps, le bon comte de Soissons crie tout en frappant de taille « Seigneur de Joinville, laissons huer ceste chiennaille, que par la coiffe Dieu, encore en parlerons-nous, entre vous et moi, de ceste journée, est-ce chambre des dames ?» Et le roi demande des nouvelles de son frère. Le damné comte d'Artois et frère Henri de René, prévôt de l'hôpital, lui répond « Qu'il y en savoie bien nouvelle, car est-toi certain que ces frères l'y coince d'Artois, est-toi en paradis ?» Le roi dit que Dieu soit loué pour tout ce qu'il lui envoie, et de grosses larmes lui tombent des yeux. Ce n'est pas toujours un balai pour Angélique et sanguinaire qu'il soit. Meurt le grand maître Guillaume de Sonnac, brûlé vif par le feu grégeois. L'armée chrétienne, grande puanteur des cadavres aidants et rareté des vivres, est frappée par le scorbut. L'armée de Saint-Louis est en déroute. Le roi est sucé par la dysenterie, au point qu'il doit couper pour gagner du temps à la bataille le fond de ses brais. Damiette est perdue. La reine doit traiter avec les Sarrasins et paie 500 000 livres tournois. Mais les croisades se faisaient avec une théologale mauvaise foi. À Saint-Jean-d'Acre, Louis est accueilli en triomphateur et toute la ville en procession se porte à sa rencontre, avec le clergé et les dames et les enfants. Les Templiers en savent plus long et cherchent à entrer en pourparlers avec Damas. Louis vient à le savoir. Il ne supporte pas qu'on le devance, désavoue le nouveau grand maître en présence des ambassadeurs musulmans et le grand maître ravale sa parole donnée aux ennemis. Il s'agenouille devant le roi et lui demande pardon. On ne peut nier que les chevaliers s'étaient bien battus, et de façon désintéressée, mais le roi de France les humilie pour réaffirmer son pouvoir. Et pour réaffirmer son pouvoir, un demi-siècle après, son successeur Philippe les enverra au bûcher. En 1291, Saint-Jean-d'Acre est enlevé par les morts. Tous les habitants sont immolés. C'est la fin du royaume chrétien de Jérusalem. Les Templiers sont plus riches, plus nombreux et plus puissants que jamais. Cependant, nés pour combattre en Terre Sainte, ils ne sont plus. Ils vivent splendidement ensevelis dans les commanderies de toute l'Europe et dans le Temple de Paris, et ils rêvent encore de l'esplanade du Temple de Jérusalem au temps de la gloire, avec la belle église de Saint-Jean-Marie de Latran constellée de chapelles votives, bouquets de trophées, et une ferveur de forge, sellerie, draperie, grenier, une écurie de 2000 chevaux, une caracole d'écuyers servant Turcopole, les croix rouges sur les manteaux blancs, les cottes brunes des affiliés, les envoyés du sultan aux grands turbans et aux aumes dorées, les pèlerins, un carrefour de belles patrouilles et d'estafettes, et les joies des coffres-forts. Le port d'où partaient ordre et disposition et chargement pour les châteaux de la mère patrie, des îles, des côtes de l'Asie mineure. Tout est fini, mes pauvres Templiers. Je m'aperçus ce soir-là chez Pilade, maintenant à mon cinquième whisky, que Belbeau me procurait d'autorité, que j'avais rêvé avec sentiment qu'est le honte, mais à voix haute, et je devais avoir raconté une histoire très belle, pleine de passion et de compassion, parce que Dolorès avait les yeux brillants. Et Diotalevi, tombé dans l'insanité d'un deuxième tonique sans alcool, levait séraphique les yeux au ciel, autrement dit au plafond en rien séphirotique du bar, et il murmurait « Et sans doute tout ça était des âmes perdues et des âmes saintes, palefreniers et chevaliers, banquiers et héros. » « Certes, ils étaient singuliers, résuma Belbeau. Mais vous, Casaubon, vous les aimez ?» Moi, j'en fais ma thèse. Quelqu'un qui fait sa thèse sur la syphilis finit même par aimer le spirochète pâle.
Beau comme un film, dit Dolorès. Mais à présent, il faut que je m'en aille, je regrette. Je dois renéoter les tracts pour demain matin. On fait le piquet de grève à l'usine Marelli.
Tu en as de la chance, toi qui peux te le permettre, dit Belbeau. Il leva péniblement une main, lui caressa les cheveux. Il commanda, dit-il, le dernier whisky. Il est presque minuit, observa-t-il. Je ne le dis pas pour les humains, mais pour Diotalevi. « Cependant, finissons l'histoire. Je veux savoir pour le procès. Quand, comment, pourquoi ?»«
Cours, commodo, quando, acquiesça Diotalevi. Oui, oui.